Vous écoutez France Culture. Le journal, Thomas Cluzel, bonjour.
Bonjour Olivia Gesbert, bonjour à toutes et à tous. C'est aujourd'hui que l'on devrait enfin connaître la réponse à deux questions qui empoisonnent la rentrée de l'exécutif. Le lancement ou non du prélèvement de l'impôt à la source au 1er janvier d'un côté, et puis le remaniement ministériel de l'autre, un remaniement plus large que prévu, puisqu'après Nicolas Hulot, c'est au tour de la ministre des Sports, Laura Flessel, d'annoncer ce matin son départ du gouvernement. Analyse à suivre dans ce journal avec Alexandra Duboucheron et Frédéric Seitz.
Dans votre journal également, Thomas Cluzel, le secteur bancaire français qui s'est engagé hier à plafonner les frais d'incident pour les clients fragiles.
Oui, de la poudre aux yeux, nous dira notamment Serge Maître de l'Association des usagers des banques. Il nous dira pourquoi.
Invité de ce journal ce midi, Françoise Gay, biologiste et directrice de recherche au CNRS, spécialiste des fonds marins.
Avec Françoise Gay, nous évoquerons donc les négociations qui s'ouvrent aujourd'hui aux Nations Unies pour parler de la haute mer, cet espace gigantesque contrôlé par aucun État qui est surtout fait l'objet d'un vide juridique absolu.
Et puis toujours à l'étranger, direction l'Espagne.
Oui, où le nouveau chef du gouvernement socialiste a décidé de reprendre l'initiative sur la Catalogne. Nous essaierons également d'analyser la stratégie du dragon chinois sur le continent noir à l'occasion d'un sommet sino-africain. Enfin, nous irons au Royaume-Uni avec le retour des députés à Westminster. Aujourd'hui, une rentrée parlementaire sous pression pour Theresa May. Enfin, à 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
Les sexualités entre révolution et régression, les études aussi sur ce sujet. Doit-on parler d'impossible objectivité? Ce sera la discussion du jour avec l'historienne, notre première invitée Sylvie Steinberg et Christophe Caron, rédacteur en chef de Slate, qui sera avec nous à partir de 12h55.
Merci Olivia et à tout à l'heure. S'il y a des jours faciles et d'autres non, ainsi que le confiait lui-même hier Emmanuel Macron, cette nouvelle journée dans sa peau de président de la République ne devrait pas déroger à la règle. Et sans trop s'avancer, on peut même supposer qu'elle penchera plutôt du côté des journées compliquées. Le chef de l'État devra non seulement trouver un remplaçant à Nicolas Hulot d'ici ce soir, mais aussi donc à Laura Flessel, la ministre des Sports, qui vient ce matin et contre toute attente d'annoncer son départ du gouvernement. Alexandra Duboucheron, bonjour.
Bonjour.
Personne a priori n'avait anticipé cette démission. Alors, si l'on s'en tient au communiqué de presse, la ministre, double championne olympique d'escrime, explique quitter le gouvernement pour, je cite, des raisons personnel, sauf qu'on ne peut évidemment s'empêcher de faire le lien entre ces deux démissions à une semaine seulement d'écart.
Oui, bien, c'est une nouvelle défection d'une personnalité populaire issue de la société civile. À 46 ans, Laura Flessel était tout aussi appréciée des Français que Nicolas Hulot. On peut d'ailleurs aussi ajouter à cette liste Stéphane Bern, l'animateur télé devenu ambassadeur du loto du patrimoine. Il menace de mettre fin à sa mission dénonçant un manque de moyens. Mais attention, soyons quand même prudents sur les raisons qui poussent Laura Flessel à partir. Hulot et Bern ont des griefs contre le gouvernement. Elle parle, vous l'avez dit, de raisons personnelles et assure qu'elle continuera à être une coéquipière fidèle d'Emmanuel Macron. Et en même temps, elle ne semble pas satisfaite de son passage au gouvernement puisqu'elle annonce dans ce communiqué sa volonté de retrouver ses engagements passés tournés vers l'humain, dit-elle. Alors forcément, ce départ, c'est un petit séisme dans le monde du sport parce qu'il y a bien sûr les Jeux Olympiques organisés à Paris en 2024. Mais si tout le monde salue son palmarès de sportif, 5 médailles olympiques, 6 titres mondiaux et un sacre européen, ce ne sont pas les mêmes éloges concernant ses 15 mois passés au ministère. Elle n'était pas assez charismatique pour les uns, maladroite ou pas compétente pour les autres. Et puis la baisse du budget alloué au sport ne passait pas. D'ailleurs, son objectif de 80 médailles tricolores en 2024, jugé trop ambitieux, avait beaucoup fait sourire dans le milieu sportif.
Merci Alexandra Duboucheron. Encore quelques heures donc à attendre avant de connaître les noms des futurs ministres de l'écologie et des sports, sans compter que le chef de l'État pourrait aussi en profiter pour effectuer d'autres changements au sein du gouvernement, par exemple à la santé ou à la culture. Et puis cette journée, décidément, sera aussi l'occasion de se perdre en conjectures s'agissant cette fois-ci de l'avenir du prélèvement à la source. Emmanuel Macron est actuellement en réunion à l'Élysée autour d'Édouard Philippe et Gérald Darmanin, de sorte que tout le monde attend de voir la fumée blanche s'échapper du château aujourd'hui, sauf que rien n'est moins sûr. Pourquoi ? Parce qu'hier, Emmanuel Macron a de nouveau laissé transparaître son hésitation en affirmant qu'une mise en œuvre ratée de cette réforme risquait, je cite, de brûler un capital politique, avant d'ajouter que ceux qui le poussent à faire cette réforme ne seront pas là, qui plus est, pour le défendre en cas de problème. Bref, un report de cette réforme, pourtant inenvisageable voilà encore une semaine, s'avère désormais hautement plausible. Avec quel risque toutefois pour le président ? Réponse de Frédéric Seitz.
Ce serait d'abord un échec financier. Entre 140 et 190 millions d'euros ont été investis par l'État dans cette réforme, entre les nouveaux logiciels, la formation des agents et la communication. Alors au moment où l'État rabote dans les budgets des pensions et des allocations, le signal serait pour le moins fâcheux. Ce serait ensuite perçu comme un signe de défiance par l'administration fiscale. Depuis maintenant 3 ans, les agents de Bercy travaillent à résoudre toutes les difficultés techniques. Il a fallu rendre compatible le logiciel de l'impôt sur le revenu et celui qui sera déployé pour collecter les prélèvements auprès des entreprises. Il a fallu déminer tous les cas particuliers, comme par exemple celui des frontaliers qui travaillent dans un pays étranger mais qui sont imposés en France. Et le désaveu présidentiel porterait même jusqu'au ministre Gérald Darmanin, qui a passé ces derniers mois à s'assurer de la fiabilité du dispositif et qui, ces derniers jours, s'en était porté personnellement garant. Mais le plus grand danger d'un renoncement est évidemment politique. Ce serait le tout premier recul d'Emmanuel Macron après 16 mois d'un mandat mené tambour battant. Cela voudrait dire enterrer une réforme par crainte d'impopularité à l'approche des élections européennes. Réforme qui a pourtant été votée par 2 fois par le Parlement. Emmanuel Macron se forgerait alors l'image d'un Gaulois réfractaire au changement, selon les termes qu'il avait lui-même utilisés pour regretter l'immobilisme face aux réformes.
Une mesure populaire cette fois-ci. Le ministre de l'Économie et des Finances s'est mis d'accord hier avec les banques françaises pour plafonner les frais d'incident de paiement. Bruno Le Maire a demandé à ce que le plafond soit fixé à 20 euros par mois et 200 euros par an maximum. Une manière de soutenir les publics les plus fragiles. Mais combien seront-ils justement à profiter de cette mesure? Ce plafond s'adresse en réalité aux personnes détentrices d'un compte à 3 euros, ce que l'on nomme généralement un compte spécifique, soit au total 375 000 Français. Et voilà pourquoi, selon Serge Maître, secrétaire général et porte-parole de l'AFUB, l'Association des usagers des banques, cette mesure est totalement insuffisante, de la poudre aux yeux. En somme, Serge Maître qui regrette notamment que le problème de fond, c'est-à-dire celui du prix facturé pour les incidents de paiement, n'ait pas été pris en compte. Il s'en explique auprès de Marie Viennot.
Ce qui est en cause, ce n'est pas le fait que lorsqu'on est à découvert, on vienne à payer. On paye effectivement des agios déjà. Ce qui est en cause là, c'est les pratiques tarifaires concernant les incidents de paiement. Surtout, c'est la pratique des lettres d'alerte, des lettres de prévention, des lettres que la banque adresse et n'oublie pas de facturer. Et ça, ça ne changera pas la mesure gouvernementale étant appelée à s'adresser qu'aux 350 000 personnes qui bénéficient de l'offre spécifique. Eh bien, c'est oublier qu'il y a des millions d'autres personnes qui sont vulnérables, qui seront guidées petit à petit vers la précarité encore plus grande.
Pour quelles raisons le gouvernement n'est pas allé plus loin, selon vous ?
Il y a sans aucun doute un psychodrame tarifaire purement français, parce que pour qu'il y ait des mesures qui puissent être étendues à l'ensemble, il faudrait encore savoir quel est le prix de revient des prestations bancaires et en cause. Tant qu'on n'aura pas fait cette analyse, eh bien on sera dans ce poker menteur où on agit par plafonnement, des plafonnements dont on sait par l'expérience que chaque fois qu'ils ont été instaurés, le professionnel les contourne. Exemple, lorsqu'il y a eu plafonnement des frais de rejet, de chèque ou de prélèvement, eh bien sont apparus des frais, des commissions d'intervention. Et quand on a plafonné les commissions d'intervention, eh bien maintenant on est aux frais d'incident de paiement. C'est sans aucun doute une très mauvaise méthode, d'autant plus que le gouvernement s'en remet à l'engagement des banques. Or, on peut être très sceptique puisque la situation actuelle est née justement des dérapages bancaires et de leur incapacité à réguler leur pression tarifaire.
Un Serge Maître de l'Association des usagers des banques, il répondait à Marie Viennot. Il était 18h ce 5 juin 2013, à l'occasion d'une vente privée de vêtements, des jeunes militants d'extrême-gauche pour les uns et identitaires d'ultra-droite pour les autres se toisent, s'invectivent, se provoquent. 40 minutes plus tard, une rixe éclate au pied de l'église voisine. L'altercation ne durera que 35 secondes, au bout desquelles Clément Méric, 18 ans, étudiant à Sciences Po, s'écroulera au milieu d'une foule compacte, victime d'un œdème cérébral diffus provoqué par des coups de poing au visage. C'est aujourd'hui que doit s'ouvrir devant la cour d'assises de Paris le procès donc des meurtriers de Clément Méric. Ce matin, l'audience a finalement été suspendue. L'un des 3 accusés qui devait comparaître s'est fait contrôler à moto par des policiers avant d'être conduit au commissariat. Le procès devrait finalement pouvoir s'ouvrir en début d'après-midi. C'est il y a 3 ans, jour pour jour, Angela Merkel prenait la décision d'ouvrir les frontières de son pays aux demandeurs d'asile. Cet acte politique fort allait non seulement relancer la controverse à l'échelle européenne entre d'un côté les partisans de la plus grande fermeté sur l'immigration et de l'autre les tenants d'une ligne plus modérée. Et puis au niveau national, cette fois-ci, cette ouverture aura largement relancé le débat sur la xénophobie ainsi que l'illustre depuis 10 jours maintenant les débordements à répétition à Chemnitz. Mais pas seulement, puisque la mobilisation anti-migrants a également porté ses fruits électoralement. Selon les derniers sondages, le parti d'extrême droite AFD est en progression dans les intentions de vote à environ 16%, en troisième position, juste derrière le parti social-démocrate. Et c'est donc dans ce contexte de crise profonde qu'une femme a décidé de s'adresser à tous ceux qui ont déserté les rangs de la gauche pour passer à l'extrême droite. Son nom, Sarah Wagenknecht, cette égérie de la gauche radicale coprésidente de Die Linke, a décidé de lancer aujourd'hui son propre mouvement. Ludovic Piétenu, bonjour.
Bonjour Thomas.
Vous êtes notre correspondant à Berlin. L'icône de la gauche radicale veut donc freiner l'ascension de l'extrême droite, sauf que pour ce faire, elle a décidé de se prononcer à son tour pour un contrôle plus strict de l'immigration, ou dit autrement, d'associer socialisme orthodoxe et préférence nationale, c'est-à-dire une thématique jusqu'alors chasse gardée de l'extrême droite.
Oui, absolument. Pour Sarah Wagenknecht, ce sont les deux préoccupations principales de l'électorat populaire auquel elle entend s'adresser, notamment des Allemands de l'Est, la Saxe, dont on parle beaucoup ces jours-ci avec la ville de Chemnitz, le Brandenbourg qui entoure la ville-état de Berlin, mais où l'on retrouve les coins les plus défavorisés d'Allemagne. On pourrait aussi parler de la Thuringe ou du Mecklembourg-Poméranie. Ce sont des Länder où l'alternative pour l'Allemagne a pris ces dernières années beaucoup d'importance, beaucoup de poids. Pour que la gauche reprenne des couleurs, parce qu'elle va pas très très bien en Allemagne. Elle en est convaincue, Sarah Wagenknecht. Il faut s'adresser aux électeurs de cette ancienne RDA, ceux qui se sentent et qui sont toujours, à regarder les chiffres, moins nantis qu'à l'Ouest. Sur le choix d'Angela Merkel d'ouvrir il y a 3 ans, jour pour jour, les frontières, ce Wir schaffen das, nous allons y arriver. Elle a toujours fustigé ses camarades de Die Linke, à l'époque son parti, la gauche, le parti qu'elle a quitté pour créer ce mouvement, Aufstehen, debout. Elle s'est toujours moquée, au gré des congrès, des réunions, de leur naïveté, de leur bonne conscience. Et si aujourd'hui vous essayez de lui dire qu'elle pense comme l'AFD, comme l'extrême droite, elle va vous recevoir, Sarah Wagenknecht. Elle a l'argument massue, elle défend le droit d'asile, elle ne prône ni l'immigration zéro, ni les expulsions massives, une sorte de voie pragmatique. Wagenknecht est de toute façon une originale, elle est pro-Poutine, anti-européenne, anti-OTAN, une iconoclaste à gauche.
Merci Ludovic Piétenu en direct de Berlin.
Midi 43 sur France Culture, la suite de votre journal Thomas Cluzel.
Et direction à présent la Haute Mer, un espace absolument gigantesque, près de la moitié de la surface de la Terre et qui n'est aujourd'hui contrôlé par aucun État. Là-bas, pas de place pour les apparences ou les bonnes manières. Inutile de tergiverser, la règle est simple, premier arrivé, premier servi. Or c'est justement parce que les fonds marins offrent une richesse sans pareille, mais que leur exploitation se fait donc sans contrôle, que débutent aujourd'hui aux Nations Unies des négociations portant à la fois sur les ressources marines et la question de leur partage. Pour en parler avec nous aujourd'hui, Françoise Gaille, biologiste et directrice de recherche au CNRS, spécialiste des fonds marins. Bonjour madame.
Bonjour.
Et puis avec moi en studio pour vous interroger, Véronique Robérotte, spécialiste environnement de la rédaction. Bonjour Véronique.
Bonjour.
Une première question, madame Gaille, vous nous confirmez que cette immensité marine qu'est la haute mer, qui représente, je le disais, plus de la moitié de la surface de la Terre, tout cet espace donc fait aujourd'hui l'objet d'un vide juridique absolu.
Oui, tout à fait, puisque c'est le dernier espace naturel que l'espèce humaine n'a pas encore colonisé du point de vue territoire.
Il y a déjà, Françoise Gaille, il y a déjà des routes maritimes de transport. Donc la haute mer est déjà traversée par des gros cargos et de plus en plus gros. Contre quoi faut-il protéger cette haute mer?
Oh, il y a plusieurs raisons. D'abord parce que c'est un endroit où les ressources, qu'elles soient vivantes ou minérales, peuvent être d'importance pour les économies les plus diverses. Mais la deuxième raison, c'est qu'il y a un potentiel de ressources qu'on appelle génétiques, qui, elles, sont à découvrir encore et qui peuvent alimenter toute une économie, à la fois dans la santé, à la fois pour les matériaux, à la fois pour les cosmétiques et d'autres aspects qui seront développés dans l'avenir.
Dont
D'où déjà beaucoup de brevets qui ont été déposés par les multinationales. Expliquez-nous ça, effectivement, avec des grands groupes très intéressés par ces ressources génétiques.
Oui, il y a eu récemment une publication qui a été publiée et qui montre que les ressources génétiques peuvent faire l'objet de brevets et que ces brevets, dans l'ensemble, sont à 50% déposés par un grand groupe qu'on appelle BASF, et que pour l'instant, en tout cas, les autres partenaires, et en particulier, par exemple, ne serait-ce que les universités, sont très très peu présentes dans ce domaine.
Ça veut dire que quel produit, très très concrètement, si on est très concret, quel débouché demain industriel pourrait provenir de cette haute mer? On sait qu'on est, on peut être intéressé par sa façon de réagir à l'absence de lumière, l'acidité. Comment ça peut se passer?
Oui, déjà, nous savons que certaines enzymes, par exemple, c'est le cas des sources hydrothermales profondes, ont permis d'obtenir des moyens agroalimentaires pour traiter un certain nombre de choses. Tout ce qui a été le développement de la génomique, actuellement, vient en partie de ces produits qui sont issus de produits de la mer, qui ont été commercialisé. Et là, le trésor qui est devant nous est presque non encore déterminé par rapport à ce qu'on pourrait faire. J'ai parlé tout à l'heure de la confiture, mais on pourrait très bien imaginer des polymères qui fassent des matériaux qui puissent remplacer le plastique, par exemple. C'est des choses comme ça auxquelles on pourrait penser.
Si demain un texte onusien détermine des zones de préservation, de des zones de reproduction à préserver, qui surveillera ces zones? Est-ce qu'il y a une limite aussi, un texte demain, un cadre juridique? Comment peut-il encadrer un usage de la haute mer?
Oui, c'est un des grands... Il y a quatre points, en fait, dans cette négociation. Il y a comment, avec quels outils on va gérer ces zones, comment on va évaluer les impacts environnementaux éventuels, comment aussi faire participer l'ensemble des économies, pas seulement occidentales, mais l'ensemble des pays, y compris les petites îles, pour apprécier, du point de vue scientifique, ce genre de choses, et puis en fait comment partager les ressources génétiques. Donc cet ensemble-là est très important, et l'enjeu, ça va être de trouver des arguments qui permettent de s'entendre sur, je dirais, plus facilement sur comment gérer un espace qui n'a jamais été géré par l'homme.
Alors le texte des Nations Unies, oui, ce sera la dernière, le texte des Nations Unies prévoirait, ce n'est pas fait, une obligation d'étude d'impact pour certains projets, notamment des projets d'extraction. Ça vous paraît être la moindre des choses qu'avant tout projet d'aller forer en haute mer, on étudie?
Je pense que ça pose une question, c'est que pour le plancher océanique, on s'est mis d'accord sur le fait que c'était un patrimoine commun de l'humanité. Je pense que ça pose la question de qu'est-ce que c'est que cet espace de l'océan? Est-ce que c'est un bien commun? Et comment réaliser que nous avons à travailler ensemble, tous les pays, à la surface de la Terre, pour arriver à trouver une bonne gestion durable?
Merci Françoise Gaille, biologiste, je rappelle, et directrice de recherche au CNRS, d'avoir été en direct avec nous, et merci à Véronique Robérotte de la rédaction. Un autre espace, lui aussi convoité à des fins d'exploitation, le continent africain. Aujourd'hui doit s'achever le 7e forum sur la coopération sino-africaine. Hier, Pékin a d'ores et déjà annoncé qu'elle allait consacrer 60 milliards de dollars supplémentaires au développement économique des pays africains et assurer par ailleurs, mais sans préciser de calendrier, que la Chine annulerait une partie de la dette des pays les moins développés du continent. Simon Leplâtre, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en direct de Shanghai. Bien entendu, tous ces investissements sont aujourd'hui largement salués par les pays africains désirant doper leur développement économique, mais certains pointent déjà le risque pour ces pays justement de voir grossir dangereusement leur endettement et donc leur dépendance vis-à-vis de Pékin.
Oui, alors pas publiquement dans le cadre de ce forum où tout le monde est au diapason de Pékin, et évidemment il faut une belle photo de famille à la fin, donc pas de critique ouverte, mais effectivement, 60 milliards d'investissements, le chiffre est impressionnant. Après, la Chine a l'habitude de faire des promesses généreuses dont la concrétisation est souvent plus compliquée, prend du temps, mais il n'empêche, l'intention est bien là. La Chine veut continuer à investir massivement en Afrique, notamment dans le cadre de son grand projet diplomatico-économique, les nouvelles routes de la soie. Mais les investissements chinois ne sont pas sans conséquence. Effectivement, Les projets d'infrastructure en général sont très chers, ils s'accompagnent d'importantes dettes et la Chine en général propose des paquets à la fois à la construction et le financement. Or, l'Afrique compte les pays les plus pauvres du monde. Conscient que les critiques s'accumulent au sujet d'une potentielle diplomatie de la dette, Xi Jinping, le président chinois, a annoncé hier effectivement que la dette des pays les moins développés, il a parlé des pays insulaires, des petits pays enclavés aussi, pourraient être en partie annulés. Donc effectivement, il n'a pas donné beaucoup de détails, mais il a dit qu'au moins, ils n'auront rien à payer d'ici la fin de l'année 2018. Il a toutefois admis qu'il fallait mieux analyser la viabilité commerciale de certains projets, une référence à certains projets inutiles ou un peu mégalomaniaques, simplement trop chers pour des pays encore en développement. On pense par exemple à une ligne de chemin de fer au Kenya qui est aux côtés au pays presque 4 milliards de dollars qui va peser sur les finances du pays pendant des années. Un autre point sur lequel a insisté le président, c'est la neutralité de la Chine. Il a déclaré « les investissements chinois en Afrique viennent sans aucune condition politique. La Chine ne s'immisce pas dans les affaires intérieures de l'Afrique ». Là, il répondait aux inquiétudes grandissantes au sujet de l'influence de la Chine en Afrique. L'exemple de la continuité entre les investissements et la politique, c'est Djibouti. Le pays est surendetté auprès de la Chine et c'est là que l'armée chinoise a ouvert sa première base militaire hors de Chine l'année dernière.
Merci Simon Leplâtre en direct de Shanghai. Elle, justement, rentre d'une tournée africaine inédite censée resserrer les liens avec le continent. Elle, c'est la première ministre britannique Theresa May qui, depuis son retour à Londres, a pu une nouvelle fois mesurer à quel point le chemin pour sceller un accord sur le Brexit restait douloureux, non seulement avec Bruxelles, mais aussi les partisans d'une rupture radicale avec l'UE. C'est le cas aujourd'hui d'une vingtaine de députés conservateurs issus de son propre parti. Une vingtaine, c'est-à-dire un nombre suffisant pour mettre en échec le gouvernement de Theresa May. Autant dire que la rentrée parlementaire aujourd'hui à Westminster s'annonce tendu, c'est une correspondance d'Antoine Gignot.
C'est une attaque qui vient de l'intérieur. Avec l'accord que négocie Theresa May, la situation va presque empirer, explique David Davis, ancien ministre du Brexit. Pendant que Boris Johnson, ex-ministre des Affaires étrangères, parle d'une victoire de Bruxelles par chaos. Les deux hommes ont quitté le gouvernement cet été. Ils entraînent maintenant avec eux les élus conservateurs frustrés par l'absence de progrès dans les négociations, y compris les proches de Theresa May. Ce qu'on nous propose, c'est une humiliation, explique Nick Bowles, député de Grantham et Stamford, jusqu'ici soutien inconditionnel de la première ministre et qui regrette l'absence de solutions crédibles pour l'Irlande. David Jones, lui, pointe la mauvaise stratégie du gouvernement. On dit depuis le début que l'Europe ne va pas vouloir de notre plan pour le Brexit, mais on oublie qu'il y a surtout au Parlement de nombreux députés conservateurs qui ont déjà clairement dit que ce plan, ils ne le soutiendraient pas. La Première ministre n'a pas le choix, dit-il, il faut qu'elle trouve une solution alternative. Cette solution, le temps manque pour l'imaginer. Le congrès annuel des conservateurs a lieu dans moins d'un mois. Et plusieurs piliers du parti, comme l'ancien dirigeant de Rolls-Royce, Simon Robertson, réclament maintenant un second référendum sur le Brexit.
Et s'agissant toujours et encore d'autonomie, le chef du gouvernement espagnol a lui décidé de reprendre l'initiative sur la Catalogne. Hier, Pedro Sanchez a promis un référendum sur un nouveau statut de la région, tout en écartant une fois de plus l'hypothèse d'un vote sur l'indépendance réclamée par les séparatistes. En clair, un référendum pour l'autonomie, mais pas pour l'autodétermination, une initiative d'ores et déjà vivement contestée, tant du côté des indépendantistes que de la droite conservatrice. Mathieu de Taillac nous appelle de Madrid.
Il n'y a plus de matière à décentraliser, considère le chef de file du Parti populaire de droite, Pablo Casado. Circuler, il n'y a rien à voir, donc, paradoxe ou non, les indépendantistes ne sont pas loin de dire la même chose. Le débat sur le statut d'autonomie de la Catalogne est dépassé depuis 10 ans. C'est la réponse de la porte-parole du gouvernement catalan, Elsa Artadi, une condescendance habituelle de la part des sécessionnistes vis-à-vis des partisans d'une troisième voie qui ne serait ni la sécession ni le statu quo. Pourquoi donc Pedro Sanchez propose-t-il une solution qui ne peut pleinement convaincre personne? Eh bien, peut-être pour cela même, sur la question de l'indépendance ou du statu quo, on l'observe à chaque élection officielle ou à chaque sondage représentatif, c'est du 50-50, une société coupée en deux. En proposant une solution intermédiaire, Sanchez ne fera pas changer d'avis les indépendantistes les plus convaincus, non, mais il peut emporter la part non négligeable de ceux qui votent sécession, faute d'alternative, sans pour autant perdre les partisans de l'unité de l'Espagne. De quoi peut-être passer du blocage 50-50 50-50, à une majorité de 60% ou plus pour la réforme. L'idée, encore très vague, fait sens sur le papier, mais elle est extrêmement difficile à mettre en place pour un gouvernement espagnol en minorité, d'autant plus que l'initiative d'une réforme du statut d'autonomie de la Catalogne revient au Parlement régional, où les indépendantistes sont majoritaires.
Voilà, et puis la fin du suspense, donc s'agissant du remaniement, l'actuel président de l'Assemblée nationale, François de Rugy, remplacera Nicolas Hulot au poste de ministre de la Transition écologique. Quant à Roxana Mara Sineanu, l'ex-nageuse, elle remplacera, elle Laura Flessel au ministère des Sports. Nous reviendrons évidemment sur ce remaniement dans notre prochaine édition à 18h. Le temps pour aujourd'hui, pluvieux sur l'extrême nord du pays, ensoleillé au sud, les températures cet après-midi, elles seront comprises entre 19 et 32 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par François-Charles Domergue.